merci pour cette invitation au dialogue et à l'humilité de nos postures respectives. Je vous propose donc qu'on ait un échange avec la salle et donc pour avancer un petit peu dans la réflexion de notre matinée, quand on en vient à cette problématique donc de la gestion, après avoir parlé de nos systèmes de connaissances, on voit bien qu'il y a des problèmes de nature différente, hein, là, des questions finalement quasiment de relations humaines et de culture professionnelle presque, hein, système de représentation, culture d'appartenance entre gestionnaires, experts et puis monde scientifique. Décalage de vision qui vont parfois avec une approche du temps différente, et cette question du temps est quand même assez lancinante dans les approches aujourd'hui. Deuxième type de problème, finalement, la question des outils, parfois des outils préalables pour mieux se comprendre, justement, pour aller vers cette démarche un peu d'empathie. La question de la formation, la question de la communication, et puis la question de l'identification du problème. On est peu revenu dans vos présentations sur la question de la définition. Vous êtes plutôt, et c'est assez intéressant, vous êtes plutôt parti du principe qu'on savait ce qu'était une espèce invasive et on a cette a priori entre guillemets, et puis à partir de là on réfléchit plutôt à comment partager la connaissance sur ces aspects. Et puis dernière étape, finalement le déploiement d'une politique publique, d'un plan de gestion, etc., avec des outils partagés. Donc à ces différents niveaux, finalement à chaque fois on se rend bien compte que le gestionnaire doit mettre en place un certain nombre de politiques, d'actions, rentrer en contact avec ses partenaires, etc. Vous avez fait dans le dernier exposé référence à la question du bilan coût-efficacité qu'on n'a pas beaucoup abordé non plus et qui me paraît être une question intéressante. C'est vrai qu'on a dit que cette question des espèces invasives avait donc un ancrage sociétal, un ancrage philosophique, etc. On a aussi dit très clairement un ancrage économique, et l'économie finalement a été relativement peu abordé dans les tables rondes précédentes, un petit peu dans votre approche sur le vin. On se rend bien compte, effectivement, quand vous définissez des approches contradictoires entre les attentes sociétales et puis le vigneron et sa perception, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux économiques qui ne sont absolument pas négligeables. Donc, dans quelle mesure, effectivement, on engage des politiques publiques coûteuses dès lors qu'elles rapportent ou ne rapportent pas, qu'elles sont censées rapporter ou ne pas rapporter. On ne peut pas faire l'impasse, je pense, sur ce sujet-là, y compris dans peut-être le choix. Ça peut peut-être être un argument qui oriente les modalités de l'action de gestion, des actions possibles de gestion. Et puis, quelque chose qui est un peu transverse aussi, qui, en vous écoutant, j'ai du mal à me faire une idée sur une action sur mesure et une action entre guillemets prête à porter. On a parlé d'approches un peu génériques et d'approches au contraire très spécifiques. Il faudrait remettre l'ouvrage sur le métier à chaque fois pour une espèce, dans un milieu, dans un contexte. Et voilà, et j'aimerais peut-être aussi qu'on engage un petit peu plus la discussion sur ces sujets-là. Voilà, donc la parole vous est ouverte. Je n'ai fait que semer quelques idées qui m'avaient paru intéressantes en vous écoutant.
Alors, il y a trois demandes de parole et Cécilia aussi qui voudra.
Merci. Merci de vous présenter. Hein. Merci.
Bonjour. Guillaume Gigot du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. J'aimerais revenir sur le dernier point qui a été évoqué dans la dernière présentation, en fait, les aspects réglementaires, et avoir un petit peu votre point de vue, parce qu'on a, je trouve, bien balayé pas mal de sujets concernant la connaissance tout à l'heure, les enjeux, je trouve, très forts de mise en réseau des acteurs. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi quelques aspects qui nous montrent qu'on peut se réjouir des dynamiques qui sont en cours. Et ça va vers les actions, la gestion, et peut-être en bout de chaîne ou quelque part dans le cycle, il y a les aspects réglementaires qui ne sont pas négligeables. Enfin, je sais que, par exemple, si on travaille sur les espèces menacées, on les évalue, on les liste, et puis on finit par, de temps en temps, prendre des aspects réglementaires, comme la protection forte. Et ça peut être à la fois une contrainte, ça peut être à la fois un très bon outil pour travailler, et j'aimerais avoir votre point de vue en lien direct, finalement, avec les gestionnaires de terrain et les actions.
Alors, sur le réglementaire, qui veut apporter quelques éléments ? Monsieur Batra.
Si je peux juste en plus rajouter un petit contexte d'actualité, c'est juste parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont en train de se structurer au niveau réglementaire, au niveau européen. Et il y a donc peut-être toute une cascade d'événements qui pourront nous concerner tous prochainement, et donc c'est peut-être quelque chose à avoir en tête aussi.
Ce ne sera peut-être pas une cascade, mais ça peut
être... Faut être tranquille. Oui, alors je pense que sur l'aspect réglementaire, enfin, il y a plusieurs aspects. Enfin, il y en a un qui concerne les espèces plus dites nuisibles, hein, avec lutte obligatoire, hein, bon, qui ont été évoquées aussi plus tout à l'heure. Donc là, je ne répondrai pas trop sur cet aspect-là. Ça concerne en particulier des espèces comme le ragondin, bon, qui font l'objet déjà, ou les espèces qui font l'objet de tirs, par exemple, comme, ou de stérilisation d'œufs, comme certaines espèces d'oiseaux, etc. Donc là, sur ces espèces-là, il y a déjà effectivement des réglementations existantes. En revanche, effectivement, sur les espèces qu'on qualifie plus couramment, je dirais, d'exotiques envahissantes, comme par exemple les espèces végétales telles que... Alors, je ne vais pas parler de la Jussie, puisque c'est donc la seule qui bénéficie d'une interdiction de commercialisation en particulier, mais toutes les autres espèces végétales, effectivement, ne bénéficient pas de ce statut-là, quoi. Voilà, donc là, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas encore de réponse à cette sollicitation des gestionnaires, hein, parce que qui remonte d'ailleurs depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être 30 ans déjà, ou 20 ans ou 30 ans, qui remonte régulièrement au niveau du ministère, pour demander effectivement un classement de ces espèces-là de façon à, on va dire, au moins réduire ou encadrer leur commercialisation, leur transport, leur utilisation, etc. Donc il y a eu plusieurs années des perspectives d'établissement d'arrêtés ministériels complémentaires à celui de la justice. Ces arrêtés n'ont pas abouti. Arrêtés qui auraient dû comprendre une dizaine ou une quinzaine d'espèces végétales en particulier, puisque c'était le sujet, un peu le cœur de la question. Ça n'a pas abouti. Maintenant, effectivement, on est plus parti. Alors là, je parle parce que j'ai quelques contacts effectivement avec le niveau national sur cette question-là. On est plus parti dans l'optique de la mise en œuvre future, espérons le prochain, du règlement européen sur ces espèces-là, qui devrait effectivement voir s'établir une liste d'espèces préoccupantes pour les États membres dans un premier temps, et ensuite complémentaire pour chaque État, et sur lequel effectivement devrait s'appliquer à la fois des interdictions de commercialisation, transport, etc., d'une part, et peut-être aussi des obligations de lutte. Voilà, tout ça n'est pas... Alors, le projet a déjà été adopté par le Parlement européen, en fait, mais n'a pas encore été adopté formellement par l'Europe, en fait. Si ? D'accord, bah, tu as peut-être des informations plus récentes. Voilà, donc ceci étant, le temps que la liste, effectivement, soit établie, il s'écoulera probablement, effectivement, un an à partir du moment où le travail démarra réellement au niveau des États membres. Quoi. Alors, mon sentiment, c'est que le mien, hein, c'est que c'est les deux à la fois, je pense. Hein. C'est-à-dire, je pense que c'est un plus parce qu'effectivement, ça permettra de clarifier les choses sur des espèces qui actuellement sont en vente libre. Ça, je pense qu'il y avait quand même une forte demande de cohérence, quoi, entre tout l'argent qui est investi là-dedans et puis le fait qu'on puisse encore l'acheter, la planter et que ça se pratique. Effectivement, quoi. Donc là, c'est un bien, je pense que c'est vraiment un bien. Après, effectivement, contrainte, si ça engendre après des obligations d'intervention, alors qui ne sont pas définies, enfin, que je ne connais pas le détail encore de ça, sans forcément des financements supplémentaires, ça peut effectivement apparaître comme, j'aimerais pas utiliser le terme de contrainte, mais comme une obligation, effectivement, supplémentaire.
Alain Dutard, vous souhaitiez ajouter quelque chose, oui, sur ce point de vue de la réglementation.
Le règlement européen, il a été voté il y a deux jours. Hein, donc, j'ai reçu hier le texte en anglais, le texte en français. Donc, vous voyez, ça vient d'arriver. La difficulté qu'on va rencontrer, c'est que la liste d'espèces préoccupantes au niveau de l'Union européenne ne va pas nécessairement satisfaire nos besoins, la totalité de nos besoins à nous en matière de caractérisation des espèces qu'on pourra juger comme invasive au niveau du territoire national. Donc, il va y avoir des discussions de marchands de tapis dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent sur le sujet. Et je pense que ça va en effet résoudre un certain nombre de problèmes parce que normalement, les États membres devront s'engager sur de la gestion organisée à l'échelle nationale pour les espèces faisant partie de la liste d'espèces préoccupantes au niveau européen. Mais par contre, pour les autres espèces, ça risque de rester dans quelque chose qui sera beaucoup moins organisé et qui risque à ce niveau-là de poser des problèmes, de poser des difficultés pour les collectivités qui seront confrontées à ces espèces-là, qui ne seront pas dans la liste.
Sauf si je peux me permettre d'ajouter. Sauf qu'il est prévu normalement, enfin, sauf si ça a changé depuis, mais il est prévu normalement d'avoir effectivement une liste nationale, la possibilité d'établir une liste nationale sur laquelle, effectivement, complémentaire, sur lequel, effectivement, des actions devraient pouvoir aussi s'engager. Alors, est-ce qu'on aura exactement les mêmes obligations sur les deux listes? Voilà. Le règlement, c'est le règlement. Après, il y a la mise en œuvre, effectivement, du règlement.
Merci pour ces précisions.
Alors, on a trois interventions. Geoffrey Dehaize, Cécilia Claes, et après, il y aura une question sur la viticulture et une quatrième ici.
Bonjour, Geoffrey Dehaize, toujours. Parmi les expériences qui ont été présentées là, on voit des gestionnaires qui sont surtout des organismes publics, techniques, des collectivités territoriales, voire des partenaires privés, on a parlé de professionnels, horticulture, piégeurs, etc. Est-ce qu'on peut imaginer sur cette thématique de la lutte contre les plantes invasives l'implication de l'usager, avec des guillemets, du visiteur, du riverain? Oui, non, pourquoi? Dans quel cas? Est-ce que c'est envisagé?
Qui souhaite répondre?
Rapidement, c'est déjà un peu le cas, en fait, hein, au moins au niveau de l'observation. C'est-à-dire que là, j'ai donné quelques exemples d'observateurs, effectivement, qui sont plus collectifs. Hein, mais voilà, on peut et on a effectivement parfois des remontées d'observateurs, je dirais individuels, je ne sais pas si c'est le terme. qui sont souvent effectivement des naturalistes, ceci étant des gens déjà voilà, qui sont impliqués là-dessus. Ça peut être aussi des pêcheurs, enfin, c'est quelques exemples que je donne. Hein. Donc là, ce niveau-là, il existe déjà, il n'est pas formalisé. C'est, peut-être faudrait-il effectivement, je ne sais pas comment, le formaliser un petit peu plus, mais en tout cas, il existe déjà. Quoi. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est au niveau après de l'intervention des observations de gestion. C'est pour ça que je parlais du domaine privé avec un point d'interrogation. C'est que malheureusement, il y a la question du financement, c'est qu'on peut financer... subventionner des organismes publics, après c'est autre chose pour financer effectivement des interventions privées. Donc là j'avoue que j'ai pas de réponse encore là-dessus. Souvent on est un peu en... voilà, oui, bah, oui, mais le bénévolat, après, moi je pense en particulier à une autre question, c'est la question effectivement des propriétaires de plans d'eau, qui sont souvent confrontés à ces problèmes-là, qui ont bien des difficultés à trouver les bonnes solutions en fait, qui n'ont pas de moyens et qui se sentent un petit peu effectivement isolés. Donc là on a un vrai travail effectivement à mener avec eux, mais je ne sais pas trop, là, franchement, j'avoue...
Au niveau viticole, il y a une évolution réglementaire très récente qui permet de répondre à cette question, puisque, bah, notamment dans le cas de maladies graves de quarantaine qui atteignaient la vigne, on a eu des vignobles qui ont eu des problématiques liées à la vigne contaminée chez des particuliers, qui derrière bah, avaient indirectement des effets sur la production viticole professionnelle, et des grosses difficultés pour informer et former les gens à cette problématique, puisque là, nous, on était un peu sans moyens. Aujourd'hui, bon, pour aller très vite, il y a une réforme des organismes d'épidémiosurveillance qu'on appelle la réforme des OVS, organismes de vigilance sanitaire du territoire. Et une des évolutions, c'est qu'auparavant, c'était les professionnels qui pilotaient ces organismes. Et aujourd'hui, ces OVS sont constitués de 3 collèges, dont un collège des particuliers intéressés à la thématique. Donc on peut penser qu'à terme, l'intérêt d'avoir impliqué des particuliers d'intérêt intéressés à la thématique, donc finalement des gens qui ont des jardins, etc., ça soit de pouvoir développer dans ces cadres-là une communication spécifique pour des thématiques voilà, où le problème se pose.
Merci beaucoup.
Juste oui. Peut-être pour réagir un petit peu sur cet aspect bénévolat de nos concitoyens, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à envisager, dans la mesure où ça serait peut-être contraint par des textes législatifs. Mais la difficulté, c'est l'aspect financier. Denis Thierry l'évoquait pour enlever un nid de frelons. Les prix peuvent être parfois très élevés. Il y a des boîtes qui demandent jusqu'à 800 euros si c'est au-delà de 8 mètres. Donc, effectivement, il y a ce côté bénévolat, mais la contrepartie derrière, c'est souvent l'argent, quoi. Et le bénévolat, en termes de main-d'œuvre, pourquoi pas, en termes de financier, c'est peut-être beaucoup plus difficile à envisager.
Le crowdfunding.
Voilà.
Alors, Cécilia, quelques remarques, si ce n'est pas des questions?
Oui, plutôt des remarques. Finalement, si j'entends bien les préoccupations gestionnaires, c'est que pour le moment, la lutte contre les espèces invasives, c'est une lutte qui porte surtout sur les conséquences d'un processus. Okay. Donc, c'est une lutte qui arrive en aval, et non pas une lutte qui porte sur les causes, donc qui peut être réalisée en amont. Et donc, du coup, c'est une lutte qui coûte cher, qui est incertaine, qui finalement arrive trop tard. Et ça pose en fait le problème des causes finalement qu'on a encore du mal à identifier, à prévoir. Ce sont des causes finalement qui peuvent être du registre de la nature elle-même, en tout cas de l'état actuel de la nature. Et j'ai souvent entendu dire des écologues qui me disaient mais une invasion bio a d'autant plus de chances d'avoir lieu, que le milieu sur lequel elle arrive est déjà fragilisé par ailleurs. Hein. Et en ce qui concerne les causes anthropiques, vous l'avez bien évoqué, on est finalement dans une société et un système de décision complètement polycéphale, où d'un côté, des acteurs vont se battre contre une espèce, tandis que d'un autre côté, d'autres vont continuer à la commercialiser. C'est un phénomène classique dans nos sociétés. Et on en vient à l'autre point que vous avez discuté, qui est le recours à la réglementation, hein, et qui pourrait être une solution pour éviter que de continuer à commercialiser une espèce qui est considérée comme invasive. Mais alors, le problème de la réglementation va soulever celui du rapport entre la mobilité et l'immobilité. La réglementation a quelque chose d'assez figé. Vous êtes les acteurs, vous avez vu comment c'est long de réglementer, et puis qu'une fois qu'une réglementation est en place, ben, pour la modifier, c'est aussi long. Or, nous sommes face à ce que moi j'ai appelé une nature fluctuante. Okay. Et un exemple très rapide, le goéland à Marseille, c'était une espèce protégée par le droit. Hein. Et puis on l'a tellement bien protégée qu'il s'est mis à proliférer. Hein. Et on s'est retrouvé face à une situation où des écologues essayaient de se battre contre une prolifération d'une espèce qui, dans le droit, était encore considérée comme protégée. Voilà. Donc du coup, alors voilà, le principe, c'est que je joue mon rôle de sociologue, c'est que je pose des problèmes et des questions, mais je n'ai pas les solutions, je suis désolée.
Alain Dutartre. Oui. Et puis je crois qu'il y avait une autre question au fond, madame.
Oui. En fait, ce que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure, c'est en fait une réponse pragmatique à une demande des gestionnaires. Ce que Roland Matra vous a présenté aussi, les groupes de travail Pays de la Loire, comme d'autres, se sont constitués au fur et à mesure de demandes récurrentes de même nature de la part de différents gestionnaires. Et c'est vrai que cette façon de travailler, dans un premier temps, elle essaie de répondre de façon concrète, pratique, dans la temporalité imposée par la gestion, tant qu'on peut le faire, ce qui a permis aussi en même temps de commencer à réfléchir sur quelles étaient les recherches qu'il fallait développer sur un certain nombre de points qui méritaient d'être améliorés pour mieux satisfaire les demandes des gestionnaires. Quand Vincent Bertrand parlait des histoires de biomasse, c'est pas simplement pour pouvoir donner une biomasse sèche par mètre carré de la plante qui figure dans un article scientifique, c'est aussi pour pouvoir dire aux gens, vous aurez dans le site, vous aurez tant de tonnes de plantes à récupérer, à sortir, etc. Donc je pense que ce côté pragmatique, il existe, et les groupes de travail qui fonctionnent depuis 15 ans, Pays de la Loire, Loire-Bretagne et d'autres plus récents, permettent justement de commencer à réfléchir sur la façon dont on peut faire évoluer à la fois les pratiques, les relations, et puis vous avez vu, on a parlé de base de données, ça existe dans tous les groupes de travail, et les questions se posent de cette façon-là aussi. Donc il y a à la fois, il y a sûrement une confrontation à avoir entre cette démarche liée aux démarches pragmatiques, hein, le gestionnaire pose une question, on essaie de l'aider, et puis en même temps de développer de la recherche à une échelle transversale, peut-être plus large, etc.
Merci beaucoup, Denis, je crois. Oui, deux questions avant que nous ne passions à la pause du déjeuner.
Voilà. Il y avait la question que je voulais moi insérer sur la viticulture, puisque je m'étais mis dans la file d'attente, Monsieur Verpy. On a évoqué ce matin la très forte structuration du réseau de viticulteurs qui ont des outils d'observation, de suivi jusqu'à la parcelle. En quoi est-ce que cette forte structuration aide ou facilite justement la recherche d'alternatives que vous évoquiez, mais pas seulement peut-être d'alternatives techniques, mais pas des actions plus collectives pour trouver des alternatives à l'utilisation des pesticides?
Alors, on a ça nous aide parce que une des clés en fait de la recherche des solutions alternatives, c'est aussi de la compréhension des dynamiques spatiales et temporelles. Et à partir du moment où vous avez un réseau d'observation maillé très finement et très précisément sur un territoire, vous pouvez comprendre comment les process se déroulent alors qu'auparavant on ne les comprenait pas. Et à partir de là, on peut mettre en place des solutions alternatives. Tout simplement, par exemple, définir précisément des zones à fort risque ou à faible risque en partant de là, et donc adapter son plan de gestion. Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on peut aussi le voir de manière, dans une dynamique temporelle pluriannuelle, et mieux comprendre finalement derrière comment orienter les recherches. Donc en fait, effectivement, moi je suis tout à fait d'avis que la difficulté c'est l'analyse, mais qu'aujourd'hui on a des outils très performants sur lesquels repose l'analyse. Donc là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Muriel Barthes dans l'intervention précédente.
Bonjour, Alice Cayati du comité régional des pêches d'Aquitaine. Donc moi je travaille pour les marins pêcheurs professionnels. Donc je vais apporter un éclairage justement qui est peut-être celui que vous disiez tout à l'heure qui manquait un petit peu sur les aspects économiques. On a beaucoup parlé donc des invasions biologiques, mais on n'a pas parlé des. Il y a certaines situations dans lesquelles les espèces invasives peuvent devenir d'intérêt économique ou peuvent être d'intérêt économique. Non pas parce qu'elles ont été vendues au départ, comme c'est le cas par exemple pour de la jacinthe d'eau et des espèces comme ça, mais moi l'exemple que j'ai en tête, c'est l'écrevisse de Louisiane. On fait tous le constat qu'elle occasionne des dégâts sur les berges, des prédations, etc. Et c'est une espèce qui peut être consommée, qui est même vendue en France et qui est demandée et qui est même importée dans certains cas. Voilà. Donc, nous, ce qu'on constate, ça fait plusieurs années que les pêcheurs professionnels, en particulier en eau douce, mais aussi marins, c'est des constats tout simplement pragmatiques. On a une espèce invasive que manifestement, on n'arrive pas forcément bien à réguler ou à éradiquer. On proposerait de pouvoir la pêcher, la commercialiser, mais on se retrouve face à des blocages. Je vais vous donner des exemples. Bien sûr, il y a l'accès sur des espaces privés, où ça, c'est normal que ce soit assez compliqué quand même pour aller pêcher sur des espaces privés, et c'est souvent le cas sur les cours d'eau fluviaux. Il y a également, par exemple, le fait que l'écrevisse, une fois qu'elle est pêchée pour être commercialisée, elle doit être commercialisée vivante, donc transportée vivante. Et ça, pour des espèces invasives, c'est un point qui est problématique. Donc il y a plusieurs points de blocage comme ça, et puis également j'ai remarqué toujours une défiance de la part des autres acteurs envers les acteurs économiques, parce qu'on va partir du principe que forcément s'ils vont tirer un avantage économique de la situation, alors ils vont abuser de cet avantage là on a souvent des blocages quand on propose des situations comme celle-ci, systématiquement non, on ne veut pas ouvrir la porte à une exploitation professionnelle. Et il y a certains cas où quand même c'est dommage, parce que ce serait une situation, plutôt que de piéger les écrevisses et de les tuer alors qu'on peut les manger, les piéger, qu'il y ait des gens qui puissent un peu gagner d'argent dessus, qu'on puisse gérer cette espèce-là comme c'est demandé sur certains sites, et puis qu'elle soit consommée. Voilà, c'était vraiment, il n'y a pas une question particulière, c'est plus un exemple, un éclairage qui me semble un peu différent par rapport à ce dont on a pu parler jusqu'à présent.
Un petit élément de réponse assez court pour qu'on ne dépasse pas trop le temps. Mais...
Non, pas de réponse, parce que ce n'était pas une question. Mais c'est intéressant cette prise de position, mis à part l'aspect anecdotique de la consommation des écrevisses américaines. Il y en a qui disent qu'elles sont bonnes, qu'elles sont pas bonnes. Mais c'est vrai qu'on a pris le parti pris ce matin de dire, la question j'ai sous les yeux, vivre avec les invasions biologiques, point d'interrogation. Ma réponse, elle est a priori oui. Je pense que ce n'est pas trop un problème. Mais on a fait l'a priori un petit peu dire que les invasions biologiques étaient nuisibles. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui, il y en a qui sont probablement utiles. Il y a quelque chose qui... Non, mais moi, je veux dire, j'ai pas terminé mon intervention. Je veux dire que certaines sont probablement utiles. Alors, actuellement, il y a tout un pan de... un front de science qui est en train de s'ouvrir, en particulier dans le monde médical, en particulier sur tout ce qui concerne la pharmacopée qui peut être extraite d'un certain nombre d'espèces. Les espèces invasives ont quand même souvent une caractéristique, c'est qu'elles sont souvent très plastiques et souvent résistantes à tout un tas d'ennemis naturels, et en particulier dans le monde de l'immunité, des venins, des choses comme ça. Il y a tout un front qui est en train de s'ouvrir, en particulier en recherche médicale, donc qui concerne l'humain. La question telle qu'elle est posée, je veux dire, elle est a priori anthropomorphique, donc on est des humains ici, aussi envahisseurs biologiques, les humains sont les premiers envahisseurs biologiques. Et peut-être qu'on va s'apercevoir qu'un certain nombre d'invabio sont fournisseurs de pharmacopées, de choses comme ça, qui seront très utiles demain, et alors utiles, hein. Et puis évidemment, si c'est utile, un fort rôle économique, voilà. Donc bon, c'est quelque chose qu'il faut considérer aussi.
C'est juste pour dire un mot effectivement sur cette question, très rapidement, sur cette question d'écrevisses. Globalement, il y a beaucoup de controverses effectivement sur globalement l'exploitation des espèces invasives. Pourquoi il y en a? C'est parce que, en fait, le problème, c'est que c'est une espèce qui est a priori pas durable, hein, dont on voudrait qu'elle ne soit pas durable, et sur lequel on veut se débarrasser, et pour lequel effectivement trouver un débouché économique permettrait peut-être de s'en débarrasser. Donc il faudra trouver un juste milieu, un compromis entre les deux, c'est-à-dire ne pas créer un effet d'aubaine, parce que c'est aussi le risque, hein, c'est de créer un effet d'aubaine en exagérant, et qu'effectivement après on remplisse un étang d'écrevisses pour se dire après on l'exploite. Là, je provoque un petit peu, involontairement. Donc, il faudra trouver, effectivement, un juste milieu là-dessus. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment confronté à ça en Pays de la Loire aussi, hein, donc avec le cas de Grandlieu, hein, que vous connaissez, du lac de Grandlieu, sur lequel il y a une pêcherie professionnelle. Il y a des aides, hein, il y a un contrat Natura 2000, effectivement, pour pêcher, pour essayer d'épuiser le stock des crevisses de Louisiane. Et en ce moment, il y a une étude qui vient d'être lancée, effectivement, globale, pour essayer d'y voir plus clair, effectivement. Quel est l'impact de la pêche, d'une part, parce que ça, on ne connaît pas l'impact réel de la pêche en termes d'efficacité sur l'objectif d'épuisement, et puis les éventuelles possibilités de débouchés économiques, hein. Sachant que l'autre controverse, effectivement, c'est la question du transport vivant, qui est interdite pour les écrevisses de Louisiane, qui le sera peut-être aussi pour les autres écrevisses exotiques, ça, j'en sais trop rien, où on en est là-dessus, mais... Et effectivement, pourquoi l'interdire le transport vivant? C'est pour limiter les risques de prolifération, en particulier sur les zones sur lesquelles il y a encore, par exemple, des écrevisses indigènes, genre écrevisses à pied blanc. Voilà, donc j'ai résumé un peu, j'ai pas des réponses encore là-dessus, mais il faut effectivement que les études, les travaux qui sont menés actuellement, il faudra bien qu'ils répondent effectivement à ces questions-là pour essayer de trouver le bon compromis entre une exploitation durable et puis la gestion d'une espèce qu'on voudrait bien qu'elle ne soit pas durable, en résumé.
Alors, une dernière question pour cette matinée.
Pas une question, c'est juste pour rebondir sur cette remarque. Concernant les invasions biologiques, moi j'ai l'impression qu'on parle d'espèces justement sur lesquelles il ne peut pas y avoir de retombées économiques. Il y a un impact économique de l'espèce. Je prends un exemple sur l'huître que l'on consomme, est bien une espèce exotique. Il y a d'autres espèces qui sont exotiques et sur lesquelles on ne se pose pas la question à partir du moment où elles rentrent dans une filière économique classique. Je ne sais pas si elle est...